Donc, je suis en compagnie de Fanche, la Tour de Bulle, Cyril Liron, scénariste, et Xavier Dorizon, scénariste. Voilà, bienvenue à vous. Donc, je crois que c'est Fanche qui a choisi le thème du sujet.
Ouais, exactement. Alors, je suis hyper content parce que ce sont deux auteurs. On va voir si le terme auteur est accepté ou pas. On va parler scénariste. Alors, j'ai fait une présentation très rapide. Bonjour Xavier. Donc Xavier est
bonjour.
Lauréat sur Le Château des Animaux cette année. Scénariste très connu. Hein, Troisième Testament en 97. Prophète avec L'eau froide dans les années 2000. De retour avec L'eau froide en 2007.
Le frais, pardon.
Long John Silver. Et puis un peu de films aussi avec La Brigade du Tigre. Et Cyril, lauréat l'année dernière avec Benoît Dahan, enfin Benoît Dahan qui
alors,
gagne.
Pas du tout, c'était juste Benoît qui
ouais,
était.
Oui, c'était Benoît, enfin t'étais.
Voilà, mais avec son.
Oui, tout à fait.
Notre ami commun,
Erwan Colbert. C'est là où on s'est connus.
Mais c'est là où on s'est connus, ouais. Exactement.
Coloriste sur une série que j'aime bien, Cotton Kid, et puis dans la tête de Sherlock Holmes avec Benoît. Donc. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser aux scénaristes et. La première question que je vais vous poser, c'est pour vous, quelle est la définition d'un scénariste en bande dessinée?
C'est quelqu'un qui aime raconter des histoires, tout simplement, avec ce média particulier qui est la bande dessinée, donc des contraintes qui lui sont propres, à savoir généralement une pagination, des bulles qui doivent avoir une certaine taille. C'est-à-dire que si on ne veut pas avoir quelque chose qui empiète trop sur le dessin, ben on n'a pas la même liberté que dans un roman, par exemple. Et donc, ben voilà, c'est une autre façon qui s'approche un petit peu du cinéma, mais c'est vraiment un média particulier et qui fait qu'on va raconter en un certain nombre d'histoires, une histoire comme ça, en accord bien sûr avec le dessinateur. C'est-à-dire que vraiment, il y a une synergie. On n'est pas tout seul, hein, évidemment. Donc, il y a surtout sur Sherlock Holmes, c'est encore assez particulier parce qu'on travaille le scénario à deux, parce que la découpe est telle que de toute façon ça n'aurait pas pu donner le même résultat, mais c'est aussi l'interprétation d'une vision du scénariste par son dessinateur, et là c'est là-dessus qu'il y a une connivence.
Ok, merci.
Je suis bien sûr complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Si je devais le reformuler à ma manière, je dirais qu'un scénariste, c'est d'une façon générale déjà quelqu'un qui a la vision d'une histoire. Je dis bien la vision et pas simplement l'idée, parce qu'il faut qu'il la voie et qu'il l'entende et pas simplement qu'il la comprenne. Donc c'est quelqu'un qui voit une histoire et ensuite qui, en fonction du média, doit traduire ou doit réaliser un document qui représente ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qui s'enchaîne et ce qui se passe, et qu'il le transmette à une personne qui va, alors si c'est en bande dessinée, eh bien le dessiner, si c'est en cinéma, qui va le filmer. Mais voilà, c'est ça notre métier. C'est voir, être le premier à voir un film, le premier à voir une BD, décrire ce qu'on a vu et entendu, et le donner à quelqu'un qui va littéralement le réaliser.
Du coup, dans la création du scénario, vous pensez toujours graphisme, vous pensez toujours illustration, vous le visualisez dès le départ?
Ah ben c'est obligé parce que, enfin, je parle pour moi bien sûr, mais si je vois pas la page, si je n'entends pas les dialogues, je peux pas les décrire. Donc, bien entendu que derrière, le travail d'un... Alors là, on m'a parlé de bande dessinée, d'un dessinateur, c'est d'aller au-delà de ce que j'ai vu, au-delà de ce que... C'est-à-dire qu'en fait, c'est prendre mes rêves et de faire qu'ils soient 10 fois mieux représentés par lui. Ça, c'est son job. Et moi, mon job, c'est de voir mon rêve et d'arriver à l'écrire. Donc, il faut l'avoir vu, sinon je peux pas décrire quelque chose que j'ai pas vu.
Comment se fait, Xavier, le choix du dessinateur pour une histoire? Est-ce que ça vient en amont du scénario, ça vient après, ça dépend de l'histoire, ça dépend...
Il n'y a pas de règle, je pense, hein, tous les scénaristes vivent ça. Soit on est fan absolu d'un dessinateur et on se rencontre à un festival comme ici à Tours et on se dit ce serait génial de faire un truc ensemble, et là on y réfléchit. Soit on écrit une histoire ex nihilo de A à Z et on a une vision assez précise de comment on voudrait l'avoir illustrée. Et là, on ne veut pas le meilleur, on veut celui qui est le plus adapté, enfin adapté au sens qui correspond à notre vision. C'est très subjectif tout ça. Et là, typiquement, par exemple, sur Le Château des Animaux, moi j'ai écrit l'histoire seul, dans mon coin, et j'avais une idée très précise de ce que j'avais envie de voir, et j'ai mis 2 ans à avoir un coup de foudre intégral, qui était donc pour Félix Delep, et donc plein de dessinateurs m'avaient fait des propositions, mais qui ne m'allaient pas, et à la seconde où j'ai vu le travail de Félix... J'ai su que c'était l'amour de ma vie sur Le Château des Animaux.
polygame, donc.
Polygame, en termes d'auteur, oui, polygame.
Alors, en ce qui nous concerne, c'est vraiment d'abord une rencontre et une façon de procéder qui est complètement différente, puisque c'est d'abord une rencontre entre amis, puisqu'on s'est connus au lycée. Et ensuite, on travaille, nous, le scénario, comme je disais, à deux. C'est-à-dire que là, c'est une vision commune que nous avons et qu'on essaye d'exploiter. Et chacun va apporter sa contribution. Et le graphisme de Benoît fait pratiquement partie du scénario, en fait, puisque son découpage, le fait de l'agencement de ses cases, etc., la façon dont il va représenter des choses, sont partie intégrante, vraiment, du scénario. Donc, voilà, c'est un peu la différence. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas une vision, moi, de mon côté tout seul. On avait une vision commune et notre but, c'est de se faire plaisir, de raconter une histoire à notre façon, qui nous plaise, et puis essayer ensuite que ça plaise au plus grand nombre, évidemment.
Bien sûr. Et Xavier, tu as une grande histoire avec la BD. Est-ce qu'il y a eu parfois un loupé sur un choix d'un dessinateur ou pas, un regret ou quelque chose qui n'est pas parti dans le sens où tu voulais ? Je vais prendre un exemple. On a eu Luc Brunswick l'année dernière, il y a 2 ans, et il nous parlait de sa série avec Richie Urban, qui fonctionne bien en 6 tomes. Et en fait, il nous a dit, en 98, donc la série a commencé en 99, mais en 98, j'ai sorti Urban Game, qui était en fait le tome 1 de la série, avec Mofflet. On l'a sorti, mais j'ai su que j'irais pas au bout. J'ai recommencé avec un autre dessinateur parce que ça n'avait pas matché, j'avais pas senti. J'ai fait juste un album.
Alors moi, je te donnerai pas de nom, mais la réponse est oui. Oui, j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire que puisque ma responsabilité c'est d'accepter le duo, d'accepter le casting, c'est donc mon choix. Et donc si en faisant les pages et en commençant, je me rends compte que la vision qui est exprimée dans les pages correspond pas à la vision que j'avais de l'histoire. Si moi, par exemple, je me rends compte que les émotions, le rythme de ce que je vois sur les pages ne correspondent pas à ce que j'avais en idée, ça crée un désamour et j'arrête. C'est arrivé, ça ne m'arrive plus. Et je considère que c'est de ma faute. Après, 9 fois sur 10, un de mes grands plaisirs dans la vie en tant que scénariste, et j'imagine que c'est la même chose pour mon collègue, c'est que je disais tout à l'heure, on a un rêve, on imagine la planche, et admettons qu'elle ait une valeur de 100 émotionnelle, pour ce que ça puisse vouloir dire. Et quand je reçois la vraie planche, ce que je reçois, c'est pas 100, c'est 150, c'est 180, c'est 200, et ça, c'est le grand bonheur, enfin, un des grands bonheurs de ma vie de scénariste. Et c'est vrai que par contre, si ce que je reçois, c'est 80, alors là, il y a de quoi se jeter par la fenêtre. Et donc, aujourd'hui, avec tous les dessinateurs avec qui je travaille, je reçois 150, et ça, c'est vraiment la joie de mon métier.
Ok. On a parlé du lien avec le dessinateur, et est-ce qu'on peut évoquer le lien avec le coloriste, pour le cas ? Lui aussi, il va participer à la mise en page de la planche, en donnant du ton, du thème, de la matière. Est-ce que vous avez un lien, est-ce que le scénariste a un lien particulier avec le coloriste ou ça restera vraiment du côté du dessinateur ?
Alors là, je peux peut-être un petit peu répondre parce que j'ai été quand même coloriste pendant 12 ans, donc j'ai été de ce côté-là. C'est pas du tout pareil. Surtout à l'époque, moi j'ai fait ça maintenant il y a presque 20 ans, ça remonte. Le coloriste était vraiment à part, c'était un peu la troisième roue ou la cinquième roue du carrosse. Souvent, c'est celui qui vient en dernier, c'est-à-dire qui accumule le retard du dessinateur, parce qu'il y a souvent du retard. C'est quand même, il faut le dire, le travail de dessinateur, c'est un très très gros boulot, véritablement. Il y a toujours des questions de délai pour ce qui est de la pression, etc. Enfin bref, il y a des délais, et donc on arrive un peu comme ça. Le coloriste ne prend pas part ni au découpage, ni à la composition, ni à quoi que ce soit. Par contre, il peut apporter sa touche, souvent en corrélation et en entente avec le dessinateur. C'est plus le dessinateur, parce que comme c'est vraiment une partie graphique vraiment pure, il n'y a pas de question de dialogue ni quoi que ce soit. Donc c'est là où éventuellement un coloriste qui s'implique va vraiment pouvoir apporter sa touche et va pouvoir donner du volume, une atmosphère et des choses comme ça. Donc oui, il a un travail important aussi, mais par contre qui interfère très très peu avec le scénario lui-même.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et par exemple, là, il y a un album qui vient de sortir qui s'appelle Undertaker tome 6. Et il y a 3 auteurs qui sont mentionnés. Meyer, Dorison et Delamy. Delamy, c'est la coloriste. Et pourquoi on a voulu la mentionner ? Parce qu'on sait que c'est son travail de couleur. J'ai envie de dire, c'est comme le travail d'un chef-op sur un film. Si vous changez la couleur ou vous changez de chef-op, vous n'aurez pas le même film. Et c'est pareil en BD. Et moi, il m'est arrivé, par exemple, de loin, parce que c'est vrai que c'est j'interviens peu dessus, mais de voir des dessinateurs qui ne faisaient pas leur couleur et de faire des tests à plusieurs coloristes, et clairement, ce n'est pas la même planche. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un super scénario, une super planche noir et blanc. Si la couleur ne va pas, bah, votre planche, elle est nulle. Et c'est là, je pense, la grande difficulté de la bande dessinée. C'est que, c'est un peu d'ailleurs comme le cinéma aussi, c'est qu'il faut que tout soit bien sur toute la ligne. J'ajouterais qu'il faut aussi qu'il soit bien édité, parce que s'il n'est pas mis en place, qu'il sort la mauvaise date, au mauvais format, qu'il est mal fabriqué, etc. etc. Vous voyez, c'est un peu comme du saut à la perche. C'est-à-dire que vous mettez en général sur la barre assez haut, et vous pouvez arriver à un centimètre en dessous, mais si vous arrivez à un centimètre en dessous, la barre, elle tombe. Et ben, on est plusieurs, ça va du scénariste au début de ligne, j'irais même à l'éditeur, puis ensuite même aux commerciaux et aux libraires. Et s'il y en a un qui loupe, ben on est un centimètre ou 15 ou 20 en dessous de la barre et elle tombe.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est presque, pour faire une analogie avec le cinéma, le coloriste, c'est, pour en revenir à ça, c'est presque celui qui est responsable de la photo, pour la photographie, celui qui est. Ben voilà, c'est-à-dire qu'un coloriste peut vraiment embellir une page ou il peut la flinguer, mais vraiment, quoi. Donc. C'est un métier délicat et qui a sa part aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les années qui évoluent, les coloristes sont de plus en plus cités comme faisant partie des auteurs, en fait. Parce que c'est vrai que, voilà, même s'ils ne prennent pas part à la création pure, ils ont quand même leur interprétation.
Ok. Alors, on parle scénariste, on va parler d'un grand scénariste qui nous a quittés cette année, qui est Raoul Covin. Alors, j'ai rencontré Raoul Covin, je l'ai interviewé en 2014, il m'avait dit une chose assez étonnante, il m'avait dit qu'il aimait venir en dédicace, parce qu'il se servait des dédicaces pour finir ses albums. C'est-à-dire qu'il allait, il écoutait ce que voulaient les auteurs, le public, pardon, et il allait dans ce sens-là. Il me disait que c'est une démarche commerciale. Et je voudrais savoir ce que toi t'en penses, Cyril, de ça.
Alors, pas du tout. Alors là, mais pas du tout, parce que Mais encore une fois, c'est particulier. Avec Benoît, moi, c'est mes deux premières BD en tant que scénariste, donc je n'ai pas du tout la carrière de Xavier, donc je ne pourrais pas me comparer. Mais là, les premiers à devoir être convaincus, c'est nous. Voilà, c'est juste ça. On essaye de faire le travail le plus honnêtement possible. On essaye de se convaincre nous-mêmes, d'y prendre du plaisir. Parce que c'est quand même, d'abord, c'est un plaisir, mais c'est tellement aussi un gros travail que si ce n'était pas du plaisir, ben, ce serait un peu dommage quand même. Donc on ne se fait pas du tout aux avis extérieurs, parce que là, c'est, à mon avis, à mon humble avis, parce que je vais encore moins me comparer à Raoul Covin, mais c'est la porte ouverte à faire un peu, à vouloir aller dans le sens du vent, et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un bon calcul. Mais ça, c'est que mon avis, Xavier.
Mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire, en fait, globalement, l'activité artistique, si je raisonnais commercialement, est un marché de l'offre et pas un marché de la demande. C'est-à-dire que un marché de la demande, c'est par exemple le pneu. Vous avez besoin d'un pneu qui tienne en hiver, qui soit solide, que bon, bref, vous voyez, vous pouvez énumérer vos créations, vous savez ce que vous voulez. C'est un marché de la demande. L'art et la création artistique ou littéraire, c'est un marché de l'offre. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne savez pas ce que vous voulez. Précisément. Et c'est parce que vous ne savez pas ce que vous voulez qu'une œuvre artistique va vous surprendre. Et c'est ce que vous lui demandez. Vous voyez, personne n'a dit « Moi, je voudrais une série sur un prof de chimie qui se met à fabriquer de la meth dans son garage. » Ça s'appelle Breaking Bad. Mais vous ne saviez pas que vous le vouliez. Et c'est parce que vous ne le savez pas que vous adorez. Vous voyez, par exemple, un des plus gros marchés de l'offre qu'on a eu dans le monde, c'est ça. Voilà. Le marché de l'art, c'est ça. Le premier qui a dit « je vais faire un téléphone qui fait aussi ordinateur, etc. » Mais personne n'avait demandé. Vous et moi, on n'avait jamais demandé ça. Mais il y a un gars qui dit « en fait, je pense que ça va plaire aux gens. Moi, ça m'éclate, je vais le fabriquer. » Ben nous, on est dans cette démarche-là. Et si vous me dites « moi, j'aimerais bien qu'à la fin, le héros, il lui arrive ça, ça et ça. » Par définition, c'est pas ce que je vais faire. Ben non, vous dites « bah oui, je m'y attendais. » Et donc nous, on est là pour vous y aller. Il ne faut pas que vous y attendiez. Alors c'est à nuancer, et j'arrête là. C'est dans la mesure où, en fait, tel que moi j'envisage mon travail, c'est de donner à un lecteur ce qu'il attend, mais pas comme il l'attend. C'est-à-dire que quand vous allez, pardon, on fait tous raconter des histoires, donc on fait toujours des métaphores à deux balles, comme disent mes enfants, mais si vous êtes dans une pizzeria, vous voulez une pizza. Mais si je vous fais la même pizza que vous avez déjà mangée 15 fois, vous en avez marre. Quoique, Mais ce qu'il faut, c'est que je vous donne une pizza, mais pas comme vous l'avez déjà mangée. Elle est un peu nouvelle, elle vous surprend, et en même temps, vous y retrouvez ce que vous aimez. Donc, il y a un équilibre, mais cet équilibre, au départ, il repose sur un retournement narratif et sur une surprise.
Alors, le temps file, j'ai une dernière question, parce qu'il y a eu un bel hommage à Raoul Covin de la part de Lambile, et il a fini par ces mots, c'était le meilleur scénariste parce qu'il savait dessiner.
Oula.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il y a un petit scénariste, je crois qu'il s'appelait Goscinny, qui était un très bon dessinateur. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Serge Letendre, qui est un bon dessinateur aussi. Didier Convard est un très bon dessinateur aussi. Moi, je pense que c'est important, en tout cas, d'avoir en bande dessinée, on parle bien de scénario de bande dessinée, d'avoir une culture graphique, une culture visuelle. Et si je parle pour moi, j'ai d'abord un énorme amour pour le dessin. J'adore le dessin, j'adore les illustrations, j'adore la peinture. Je crois que je commence à voir à peu près si un dessin va ou va pas. Mais par contre, malheureusement, je ne sais pas le faire. Alors, je dirais, je suis ceinture jaune. Hein. Bon, mais c'est un peu comme si, je ne sais pas comment vous dire, je faisais du tennis et que j'étais classé 30 et que tous les jours, je côtoie Federer et Nadal. Bon, autant vous dire, vous n'êtes pas sur la même planète. En fait, il y a un univers. Mais même si vous êtes juste 30 au tennis, vous voyez à quel point c'est dur. Et je pense que de la même manière, c'est intéressant qu'un dessinateur, à un moment ou à un autre, se soit confronté à l'exercice d'écriture. Il les fait complètement, ou pas du tout, mais qu'ils soient confrontés. Vous savez, les gens, tant qu'ils n'ont pas écrit, ils pensent qu'il suffit d'avoir une idée. Le jour où vous avez essayé, vous voyez que c'est dur. Le jour où vous avez pris une balle, vous avez tapé de faire un bon service, vous voyez que c'était dur. Donc je pense que c'est important pour deux raisons. Un, bien choisir son dessinateur. Deux, apprécier son travail. Et au-delà de ça, l'aimer de façon immodérée.
Je ne vais pas rajouter grand-chose. Moi, de façon différente, je suis tombé dans la marmite de la bande dessinée, puisque mon père est auteur de bande dessinée, et son atelier était dans ma chambre, ou ma chambre était dans son atelier, on choisira. Et donc, tous les jours, en rentrant de l'école, je regardais les pages de mon père, et effectivement, ça m'a formé l'œil au dessin, ça m'a donné de l'amour du dessin. Et même si j'ai fait une école d'art graphique pendant un an et que je n'ai pas poursuivi, j'ai un très bon œil pour le dessin. Voilà, j'ai au moins cette prétention-là. Et quand un dessin ne va pas, effectivement, je sais le dire sur pourquoi il ne va pas et ce qu'il faudrait changer. Et oui, je pense que naturellement, j'ai aussi une vision et on imagine de toute façon dans sa tête la case qu'on va décrire. C'est ce que disait Xavier tout à l'heure. Donc voilà, oui, cette relation très, très forte, je crois, entre le dessin et ce qu'on imagine. Et évidemment que pour un scénariste qui sait dessiner, ça, c'est un plus, c'est certain.
Je vais vous remercier, un grand merci pour votre temps.
Merci à vous.
Merci pour vos questions.
Merci. C'était très agréable. Donc, on va vous retrouver, le public pourra vous retrouver en compagnie de vos dessinateurs.
Nous y filons.
Voilà, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.